Session Deus Caritas Est, juillet 2012. Les conditions de possibilité du retour de Dieu dans le cœur des hommes, par Père Bernard, modérateur de la famille missionnaire de Notre-Dame.
Notre dernière journée a une perspective missionnaire. Il ne suffit pas de bien connaître l'encyclique Deus Caritas, nous devons comprendre l'urgence de l'apostolat de l'amour. Cet apostolat est irrésistible, disait Mère Marie-Augusta. Au terme du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II a appelé tous les baptisés à être témoins de l'amour. Cette mission nous paraît être la première et la plus importante condition de possibilité du retour de Dieu dans le cœur des hommes. Ce que Marie Renard disait hier est vrai. La sexualité n'a aucun sens si Dieu est complètement évacué. Donc, il est important de ce retour de Dieu est fondamental. Si tous les baptisés vivaient en vérité de l'amour de Dieu et aimaient comme Jésus, beaucoup d'hommes de bonne volonté seraient conquis par l'amour de Dieu. Pourquoi n'en est-il pas ainsi? Ne serait-il pas bon de relire les lettres de Jésus aux sept églises dans l'Apocalypse pour retrouver l'énergie d'amour qui nous permettrait de réaliser cette irremplaçable mission de témoin de l'amour? Nous avons souvent rappelé le dernier grand appel de Jean-Paul II quelques semaines avant sa mort, « Levez-vous, allons ». Cet appel, cette évidence adressée aux baptisés occidentaux endormis et tièdes. Benoît XVI à Madrid était lui aussi bien conscient des difficultés, oppositions, contradictions qu'allaient rencontrer les jeunes en notre Occident matérialiste et relativiste. Et c'est pour cela qu'il les a mis en garde, tout en les encourageant. N'ayez pas honte du Seigneur, n'ayez pas peur d'être catholique. Nous vivons le temps du combat particulièrement intense contre Jésus et son Église. Benoît XVI a utilisé le mot de christianophobie pour le décrire. Et Benoît XVI, c'est le poids des mots. Il n'utilise pas un mot à la légère. Donc si lui-même a utilisé le mot de christianophobie, c'est que vraiment, on est dans un temps de christianophobie. Nous ne devons pas perdre courage. Éclairés par le chapitre 12 de l'Apocalypse et par l'évangile de Saint Jean, nous savons que Jésus a déjà vaincu le monde et que la femme triomphera du dragon rouge et des deux bêtes. Ce temps nous demande davantage de développer le courage. Jean-Paul II, dans son dernier livre « Levez-vous, allons », a appelé ses frères évêques au courage, afin de ne pas céder à la peur utilisée par les dictateurs. La peur donc pour faire taire. Ne nous engageons pas dans la voie de la violence cependant. Dans son avant-dernier livre « Mémoire et identité », Jean-Paul II se demandait « Existe-t-il une limite au pouvoir du mal ?» On a l'impression aujourd'hui que ce pouvoir du mal est illimité. La réponse de Jean-Paul II était convaincue. Oui, il y a une limite au pouvoir du mal, c'est la miséricorde divine. Mais qu'est-ce que la miséricorde divine? Sinon, l'amour de Dieu. Dieu lui-même. Notre pape Benoît XVI est bien dans la même logique que Jean-Paul II. En donnant comme première encyclique Deus Caritas Est, il indique clairement aux baptisés et à tous les hommes de bonne volonté que le seul remède aux maux de notre monde est Dieu lui-même, Dieu qui est amour. Il n'a pas cessé de le rappeler depuis son élection pontificale. La mission la plus urgente de l'Église est donc le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Au terme de son voyage apostolique en France, il a déclaré « Les temps sont propices à un retour à Dieu ». Alors, j'ai recherché, en préparant ce dernier texte, dans les textes officiels de Benoît XVI, en France, cette phrase, je ne l'ai pas trouvée. Et cela me fait découvrir que le pape, puisque Monseigneur Ginami, qui est un ami et qui travaille justement à la secrétaire d'État et qui travaille pour les textes du pape et pour les envoyer dans le monde entier, donc me disait que le pape ajoute sur les textes qui sont écrits, que la secrétaire d'État lui fait passer. Le pape ajoute, et donc son travail à lui, c'est de, chaque fois que le pape a donné une homélie, c'est de revoir le texte qui était écrit avant et de rajouter les mots que le pape avait donnés. Eh bien, cette phrase-là n'a pas été rajoutée. Et c'est avant de repartir de la France, à l'aéroport, à Tarbes, que le pape a dit « Les temps sont propices à un retour à Dieu ». Et je pense que ça, c'est une grande prophétie, grande prophétie importante. Pourtant, tout semble dire le contraire. Le mal envahit tout, la violence, la haine, l'immoralité ne cessent de s'étendre, mais le pouvoir du mal n'est pas illimité, sa limite est Dieu lui-même. Mère Marie-Augusta disait en 1948, « Le temps presse ». Les démons sont déchaînés à travers ce monde perverti. Les cœurs sont pleins de désirs de vengeance, de crimes horribles, et cependant, au milieu d'eux, s'élève droit, fort, impératif, l'amour. C'est Jésus dans ses amis fidèles. Jésus a beaucoup d'amis sur la terre, mais combien sont faibles. Ses paroles prophétiques sont toujours d'actualité, nous en sommes convaincus. Elles révèlent la première condition de possibilité du retour de Dieu dans le cœur des hommes, que les amis de Jésus ne soient ni faibles ni timides, mais courageux et zélés pour vivre et témoigner de l'amour de Dieu. Je voudrais reprendre, au début de cette dernière journée, des extraits des discours de Benoît XVI lors de son voyage apostolique en France en 2008. Il me semble qu'il nous serait grandement profitable spirituellement de relire et de méditer ce que ce grand pape a dit à la France. Avec les jeunes, le 12 septembre au soir 2008, il disait « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. L'Esprit nous met intimement en rapport avec Dieu, chez qui se trouve la source de toute richesse humaine authentique. Tous vous cherchez à aimer et à être aimés. C'est vers Dieu que vous devez vous tourner pour apprendre à aimer et pour avoir la force d'aimer. L'Esprit qui est amour peut ouvrir vos cœurs pour recevoir le don de l'amour authentique. Confiez-vous à l'Esprit Saint pour découvrir le Christ. L'Esprit est le guide nécessaire de la prière, l'âme de notre espérance et la source de la vraie joie. L'Esprit Saint vous fait approcher du mystère de Dieu et vous fait comprendre qui est Dieu. Il vous invite à voir dans votre prochain le frère que Dieu vous a donné pour vivre avec lui en communion, humainement et spirituellement, pour vivre en Église donc. En vous révélant qui est le Christ mort et ressuscité pour nous, l'Esprit Saint vous pousse à témoigner. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire. Je voudrais vous confier un second trésor, a-t-il dit encore aux jeunes. Il s'agit du mystère de la croix. Pour les chrétiens, la croix symbolise la sagesse de Dieu et son amour infini révélé dans le don salvifique du Christ mort et ressuscité pour la vie du monde, pour la vie de chacun et de chacune d'entre vous en particulier. Puisse cette découverte bouleversante de Dieu qui s'est fait homme par amour vous inviter à respecter et à vénérer la croix. Elle est le signe de votre vie en Dieu et de votre salut, le témoin muet des douleurs des hommes et l'expression unique et précieuse de toutes leurs espérances. Chers jeunes, je sais que vénérer la croix attire aussi parfois la raillerie et même la persécution. La croix compromet en quelque sorte la sécurité humaine, mais elle affermit aussi et surtout la grâce de Dieu et confirme notre salut. Ce soir, je vous confie la croix du Christ. L'Esprit Saint vous en fera comprendre les mystères d'amour, et vous crierez alors avec saint Paul, « Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, comme moi pour le monde. » Paul avait compris la parole de Jésus, apparemment paradoxale, selon laquelle c'est seulement en perdant sa propre vie qu'on peut la trouver. Et il en avait conclu, « La croix exprime la loi fondamentale de l'amour et est la formulation parfaite de la vraie vie. » Dans la conclusion de son homélie à Paris, Benoît XVI disait « Lorsque nous agissons, cherchons-nous à répandre l'amour qui nous fait vivre ?» Saint Jean Chrysostome dit encore « Maintenant, si nous participons tous au même pain, et si tous nous devenons cette même substance, pourquoi ne montrons-nous pas la même charité ? Pourquoi, pour la même raison, ne devenons-nous pas un même tout unique ? Ô homme, c'est le Christ qui est venu te chercher, toi qui étais si loin de lui, pour s'unir à toi, et toi, tu ne veux pas t'unir à ton frère ? Je vous confie, chers chrétiens de Paris et de France, à l'action puissante et miséricordieuse du Dieu d'amour qui est mort pour nous sur la croix et ressuscité victorieusement au matin de Pâques. À tous les hommes de bonne volonté qui m'écoutent, je redis comme saint Paul, fuyez le culte des idoles, ne vous lassez pas de faire le bien. À Lourdes, le soir de ce même jour, Benoît XVI disait encore « Vivre l'amour chrétien, c'est tout à la fois faire entrer la lumière de Dieu dans le monde et en indiquer la véritable source. » Saint Léon le Grand écrit « Quiconque en effet vit pieusement et chastement dans l'Église, qui songe aux choses d'en haut, non à celles de la terre, et d'une certaine façon semblable à la lumière céleste. Tant qu'il observe lui-même l'éclat d'une sainte vie, il montre à beaucoup comme une étoile la voie qui mène à Dieu. En ce sanctuaire de Lourdes, vers lequel les chrétiens du monde entier ont les yeux tournés depuis que la Vierge Marie y a fait briller l'espérance et l'amour en donnant aux malades, aux pauvres et aux petits la première place, nous sommes invités à découvrir la simplicité de notre vocation, il suffit d'aimer. » Vous voyez, ces textes de la venue de Benoît XVI à Lourdes vont bien dans le sens de cette encyclique que nous sommes en train d'approfondir. Dans l'encyclique que nous avons approfondie, Benoît XVI nous appelle à exercer l'apostolat de l'amour. Il n'utilise pas cette expression, mais son contenu. Et comme je vous l'ai dit hier, le mot qui revient le plus souvent est le mot « service ». C'est surtout par le service de la charité, dit Benoît XVI, que l'Église rayonne l'amour de Dieu. Toute l'activité de l'Église est l'expression d'un amour qui cherche le bien intégral de l'homme. L'amour est le service que l'Église réalise pour aller constamment au-devant des souffrances et des besoins, même matériels, des hommes. C'est le numéro 19. La charité ne doit pas être un moyen au service de ce qu'on appelle aujourd'hui le prosélytisme. L'amour est gratuit. On en a parlé hier de la gratuité. Il n'est pas utilisé pour parvenir à d'autres fins. Celui qui pratique la charité au nom de l'Église ne cherchera jamais à imposer aux autres la foi de l'Église. Il sait que l'amour, dans sa pureté et dans sa gratuité, est le meilleur témoignage du Dieu auquel nous croyons et qui nous pousse à aimer. Le chrétien sait quand le temps est venu de parler de Dieu et quand il est juste de le taire et de ne laisser parler que l'amour. Il sait que Dieu est amour et qu'il se rend présent précisément dans les moments où rien d'autre n'est fait sinon qu'aimer. Il sait que le mépris de l'amour est mépris de Dieu et de l'homme et qu'il est la tentative de se passer de Dieu. Par conséquent, la meilleure défense de Dieu et de l'homme consiste justement dans l'amour. La tâche des organisations caritatives de l'Église est de renforcer une telle conscience chez leurs membres, de sorte que par leurs actions, comme par leurs paroles, leurs silences et leurs exemples, ils deviennent des témoins crédibles du Christ. C'est le numéro 31C de l'encyclique, et je trouve que ce passage est très lumineux et qu'il est véritablement un programme d'action pour chacun d'entre nous. Benoît XVI n'a pas beaucoup utilisé le mot « mission » dans son encyclique. Il ne l'a pas oublié cependant. Il parle de la mission de tous les baptisés. La charité doit animer l'existence entière des fidèles laïcs et donc aussi leur activité politique vécue comme charité sociale. Numéro 29. Il a souligné aussi la mission des évêques. Récemment, le directoire pour le ministère pastoral des évêques a approfondi la manière plus concrète le devoir de la charité comme tâche intrinsèque de l'Église entière et de l'évêque dans son diocèse. Et il a souligné que l'exercice de la charité est un acte de l'Église en tant que telle et que, au même titre que le service de la parole et des sacrements, elle fait partie, elle aussi, de l'essence de sa mission originaire. Numéro 32. Notre modèle parfait, enfin, est la Vierge Marie, la mère qui nous montre ce qu'est l'amour et d'où il tire son origine, sa force toujours renouvelée. C'est à elle que Benoît XVI a confié l'Église, sa mission au service de l'amour. L'Eucharistie est la source du service de l'amour. Tout cela a été dit hier, bien évidemment, dans les témoignages. Mais il est important de citer ce que le pape dit au numéro 17 de son encyclique. Dans l'histoire d'amour que la Bible nous raconte, Dieu vient à notre rencontre. Il cherche à nous conquérir jusqu'à la dernière scène, jusqu'au cœur transpercé sur la croix, jusqu'aux apparitions du ressuscité et aux grandes œuvres par lesquelles, à travers l'action des apôtres, il a guidé le chemin de l'Église naissante. Et de même, par la suite, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur n'a jamais été absent. Il vient toujours de nouveau à notre rencontre par des hommes à travers lesquels il transparaît, ainsi que par sa parole dans les sacrements, spécialement dans l'Eucharistie. Et donc, il faut que nous participions, bien évidemment, à la messe dominicale, mais si nous avons la possibilité à la messe chaque jour, la messe quotidienne, c'est bien cette participation à la messe quotidienne qui a permis aux parents de Sainte Thérèse d'être des saints parents et de fonder une sainte famille. Benoît XVI n'a pas oublié l'important service ministériel des diacres. Donc au numéro 21, il parle des diacres. Le service social des 7 premiers diacres de l'Église était un véritable ministère spirituel, une tâche essentielle de l'Église, celle de l'amour bien ordonné du prochain. Avec la formation du groupe des 7, la diaconia, le service de l'amour du prochain, exercé d'une manière communautaire et ordonnée, était désormais instauré dans la structure fondamentale de l'Église elle-même. Mais le retour de Dieu dans le cœur des hommes ne dépend pas de nos programmes humains. Et le numéro 35 le dit très clairement. C'est Dieu qui gouverne le monde et non pas nous. Comme je le disais hier avec humour, rappelons-le à nos gouvernants. Nous, nous lui offrons uniquement nos services, pour autant que nous le pouvons, et tant qu'il nous en donne la force, faire cependant ce qui nous est possible, avec la force dont nous disposons, telle est la tâche qui maintient le bon serviteur de Jésus-Christ toujours en mouvement. l'amour du Christ nous pousse. Une petite exemple qui peut nous aider pour notre mission, parce que c'est vrai, que pouvons-nous pour changer ce monde? Jésus a mis à l'épreuve les apôtres au moment de la multiplication des pains. Donnez-leur à manger. Mais Seigneur, il n'y a qu'un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant d'hommes? Comment allons-nous faire? Eh bien, le petit garçon a donné ses 5 pains et ses 2 poissons, et Dieu et Jésus a fait le reste. Il a multiplié tout cela. Donc, Dieu ne nous demande pas l'impossible, mais donnons nos 5 pains et nos 2 poissons, et il multipliera tout cela pour l'humanité entière. Je voudrais encore citer Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. Sur le principe de gratuité, l'amour dans la vérité place l'homme devant l'étonnante expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d'une vision de l'existence purement productiviste et utilitariste. L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. L'homme moderne est parfois convaincu à tort d'être le seul auteur de lui-même, de sa vie et de la société. C'est là une présomption qui dérive de la fermeture égoïste sur lui-même, qui provient, pour parler en termes de foi, du péché des origines. Cette même encyclique se conclut par cette ferme conviction. La plus grande force qui soit au service du développement, c'est un humanisme chrétien qui ravive la charité et se laisse guider par la vérité en accueillant l'une et l'autre comme des dons permanents de Dieu. L'ouverture à Dieu entraîne l'ouverture aux frères et à une vie comprise comme une mission solidaire et joyeuse. Inversement, la fermeture idéologique à l'égard de Dieu et l'athéisme de l'indifférence, qui oublie le Créateur et risque d'oublier aussi les valeurs humaines, se présentent aujourd'hui parmi les plus grands obstacles au développement. L'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain. Seul un humanisme ouvert à l'absolu peut nous guider dans la promotion et la réalisation de formes de vie sociale et civile dans le cadre des structures, des institutions, de la culture et de l'éthos, en nous préservant du risque de devenir prisonniers des modes du moment. Le développement a besoin de chrétiens qui ont les mains tendues vers Dieu dans un geste de prière, conscients du fait que l'amour riche de vérité, caritas in veritate, d'où procède l'authentique développement, n'est pas produit par nous, mais nous est donné. C'est pourquoi, même dans les moments les plus difficiles et les situations les plus complexes, nous devons non seulement réagir en conscience, mais aussi et surtout nous référer à son amour. Le chrétien désire ardemment que toute la famille humaine puisse appeler Dieu notre Père. Avec le Fils unique, puissent tous les hommes apprendre à prier le Père et à lui demander, avec les mots que Jésus lui-même nous a enseignés, de savoir le sanctifier en vivant selon sa volonté, et ensuite d'avoir le pain quotidien nécessaire, d'être compréhensif et généreux à l'égard de leurs débiteurs, de ne pas être mis à l'épreuve à l'excès, et d'être délivré du mal. Il me plaît d'exprimer ce vœu avec les paroles mêmes de l'apôtre dans sa lettre aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Que la Vierge Marie, proclamée par Paul VI, mère de l'Église, et honorée par le peuple chrétien comme miroir de la justice et reine de la paix, nous protège et nous obtienne par son intercession céleste, la force, l'espérance et la joie nécessaires pour continuer à nous dévouer généreusement à la réalisation du développement de tout l'homme et de tous les hommes.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.